Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Il y a 30 ans, le protestantisme français perdait une théologienne de premier plan, France Quéré. À l'occasion de ce triste anniversaire, on peut se demander ce que son œuvre peut bien nous dire aujourd'hui. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Bauer, qui prépare un colloque avec d'autres sur France Quéré et qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Caroline et merci d'être là.
Bonjour, merci à vous de m'accueillir.
Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander ce qui vous a attiré dans l'œuvre de France Quéré. Pourquoi vous êtes lancée dans ce projet avec d'autres?
Alors, c'est une théologienne que je connais depuis longtemps parce que je la lisais de temps en temps et son écriture m'a toujours plu. Mais comme elle est très variée, très diversifiée, j'avais pas d'image globale de sa pensée et ça me travaillait un peu. J'avais envie certainement de travailler cette autrice. Et puis, comme je suis membre du comité de rédaction de la revue Foi et Vie, nous cherchons toujours à développer des thèmes dans nos numéros, j'ai proposé de travailler sur France Quéré. France Quéré avait publié dans la revue Foi et Vie plusieurs fois de son vivant, mais aucun numéro n'avait encore consacré son dossier à ce qu'elle était et aux différentes facettes de sa pensée. Alors, cette idée a été reprise et bien accueillie. Et voilà ce qui nous a amené à nous replonger dans ses écrits, avec finalement donc deux projets qui se sont très vite montrés comme consécutifs et complémentaires. D'abord, un numéro donc de la revue Foi et Vie qui est, je le rappelle, gratuite et en ligne, et que chacun pourra librement télécharger s'il veut la consulter. Et ce numéro devrait paraître en octobre. Il y a eu suffisamment de contacts pour qu'une journée d'études qui soit en même temps une journée de rassemblement de ces idées s'organise le 28 novembre prochain à l'Institut protestant de théologie de Paris, 83 boulevard Arago. Et ce sera la convention du Forum protestant, c'est-à-dire que la Fondation Bercier à Paris, qui finance en général les médias protestants, s'implique avec l'Institut protestant de théologie pour offrir une journée qui sera ouverte non seulement à tout public, mais qui sera aussi écoutable et visible en visio, en distanciel. Donc, une manifestation qui pourra toucher beaucoup de gens qui s'y sont intéressés.
Alors, Foi et Vie, vous pouvez nous dire très rapidement ce que c'est, parce que je ne sais pas exactement si nos auditeurs connaissent.
Oui, Foi et Vie, c'est une revue protestante de culture qui est née il y a déjà fort longtemps, à la fin du 19e siècle, et qui a connu de grands noms, hein, qui ont publié dans ces colonnes. Ça peut être par exemple Jacques Ellul, Paul Ricoeur, France Quéré aussi, et beaucoup d'autres. Et c'est une revue qui était sous forme papier, sous forme de numéros classiques, jusqu'en 2019. Et puis, comme toutes ces revues, bien financièrement, les équilibres sont compliqués. Et donc, actuellement, elle a restreint sa voilure en termes de diffusion, c'est-à-dire en renonçant au papier momentanément pour une diffusion numérique, mais gratuite, ouverte à tous, pour l'offrir à un très large public. Et finalement, notre nombre d'abonnés augmente de nouveau beaucoup. Donc, on est à plus de 1200 abonnés maintenant, ce qui est une bonne nouvelle pour la revue, sous cette forme-là. Et nous espérons maintenant pouvoir réintroduire progressivement des numéros papier pour ceux qui le souhaiteront. Et ce numéro Foi et Vie sera édité sur papier et accessible pour ceux qui voudraient l'acquérir sur papier.
Donc, on peut dire à nos auditeurs de regarder sur Internet Foi et Vie et de lire, puisque c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'être abonné, et de surveiller, donc, pour ceux qui ne voudraient pas, en octobre, de demander le journal papier alors qu'ils peuvent se renseigner dans une association protestante ou à la radio. Alors, on va parler maintenant de France Quéré. Donc, son parcours intellectuel, bon, pour ceux qui, parce que France Quéré est morte il y a 30 ans, donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas France Quéré. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Comment on peut la présenter rapidement, une théologienne protestante?
D'abord, on peut présenter une Montpelliéraine. Elle est née à Montpellier, elle a grandi à Montpellier, elle a fait des études de lettres et des études de théologie, mais surtout de lettres. Elle avait son CAPES, elle a enseigné d'ailleurs aussi au collège en lettres classiques. Mais surtout, elle a d'abord été passionnée par les langues anciennes et au gré d'une rencontre, on lui a mis le pied à l'étrier par la possibilité de traduire les Pères de l'Église. Ça l'a passionnée. Elle a traduit pendant 7 ans les Pères de l'Église. Ça a certainement forgé sa pensée théologique, forcément aussi forgé une capacité à écrire et une envie d'écrire. Et donc, elle s'est trouvée au bout de quelques années, d'abord engagée dans l'équipe de la revue Esprit, et puis ensuite, Panorama Chrétien lui a demandé, la revue Panorama lui a demandé des articles, et puis Réforme, et puis La Croix. Et finalement, les éditions du Seuil lui ont aussi proposé d'écrire des livres qui lui sont propres. Et donc, elle a développé une réflexion éthique et théologique, et biblique, exégétique aussi, on pourrait dire articulée sur une passion des Écritures, et un désir à la fois de mettre une certaine liberté dans ses traductions de l'Écriture, de revivifier l'interpellation des Écritures, et en même temps enraciner dans un rappel de la tradition et des Pères, et donc redonnant à ce moment-là une nouvelle fraîcheur à la lecture de l'Évangile. Et à partir de là, elle a développé toute une réflexion sur la famille, sur la femme, sur l'enfant, sur le couple, et puis jusqu'en 1983. Et en 1983, tout en continuant cette activité littéraire, elle a été invitée à participer, dès le début de l'institution, au Comité consultatif national d'éthique. Il a été fondé à cette époque, à l'issue de la naissance d'Amandine, qui était la première enfant qui était née par fécondation in vitro. Il y a eu une prise de conscience d'une nécessité d'une réflexion éthique croisant différentes disciplines et qui permettait de détailler le débat public. Et dans ces personnes qui ont été sollicitées, certaines étaient sollicitées en raison de leur appartenance religieuse, dont une protestante ou un protestant. C'est ainsi qu'elle a été invitée à participer au CCNE. Ça l'a passionnée jusqu'à sa mort en 1995, qui a été très brutale. Hein, elle avait 58 ans. Et elle a vraiment fait un travail fantastique d'analyse scientifique pour avoir des propos qui étaient ancrés dans le réel de l'avancée scientifique et des problèmes qui se posaient. Et puis, en essayant d'apporter un regard de distanciation et de reprise de ces débats éthiques pour porter une vraie vision de ce qu'était une personne, de ce qu'était sa dignité, etc.
Alors, je voudrais qu'on parle des Pères de l'Église. On parlera évidemment de son parcours féministe, de son ancrage dans la société. Mais justement, ce qui est particulier, c'est qu'elle a traduit les Pères de l'Église en faisant preuve d'originalité. Comment on peut avoir de l'originalité en traduisant les Pères de l'Église?
Eh bien, parce qu'elle a une capacité une littéraire assez exceptionnelle. Et donc, elle a saisi les Pères de l'Église comme une parole qui devait être entendue pour aujourd'hui. Et parallèlement, les sources chrétiennes sont aussi porteuses de traductions scientifiques, qui sont des traductions rigoureuses, mot à mot, cherchant à restituer exactement le texte dans son origine. Ce sont des traductions qui sont plus lourdes, finalement, pour le lecteur d'aujourd'hui. Elle s'est adressée à un lectorat beaucoup plus large. Donc, une traduction qui pouvait être entendue par n'importe qui. Et donc, cela a beaucoup plu, en fait, hein, elle a été associée à une collection qui s'appelle Ictus, les Pères dans la foi, qui par thème a rassemblé différents écrits des Pères de l'Église sur la richesse et la pauvreté, sur la femme, sur la messe, sur les chemins vers Dieu, sur Noël, sur Pâques. Il y a eu différents numéros comme ça, où à chaque fois, elle apportait des traductions vivantes, voyez, vivantes et vivifiantes.
D'accord, c'est donc une collection qu'on peut se procurer actuellement, cette collection Ictus.
C'est une collection qui a eu beaucoup de succès et qui a été vite épuisée. Elle a été ensuite republiée dans la collection Les Pères dans la foi, alors sans le Ictus, aux éditions Migne. Alors, je pense qu'on les trouve surtout en livre d'occasion. Je ne sais pas si on les trouve encore en livre neuf. Je ne suis pas sûre.
Et alors, vous parlez aussi donc de, on va parler de sa critique féministe parce que elle est connue comme ça. Il y a 30 ans, effectivement, donc vous avez parlé de la première naissance in vitro. Bon, France Quéré est connue aussi pour avoir apporté son soutien aux femmes qui souhaitaient interrompre une grossesse, etc. Mais 30 ans après, est-ce que sa pensée n'est pas dépassée? Puisque depuis, il y a eu MeToo, il y a eu d'autres… bon, il y a des revendications plus fortes, enfin plus, peut-être plus violentes par rapport aux abus sexuels, etc. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire 30 ans après, France Quéré, par rapport au féminisme?
Alors là, vous allez tout de suite vers les questions les plus délicates. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas la réponse ultime à votre question aujourd'hui, puisque nous ouvrons, en fait, l'analyse de sa pensée aujourd'hui, à nouveau, je dirais, avec des personnes qui n'ont pas connu France Quéré et qui redécouvrent sa pensée. Il y a eu un peu un trou de génération, où elle a été un peu oubliée. Et donc maintenant, ce travail de réouverture repose les questions, et c'est dans toute son œuvre, qui est très variée et qui porte sur bien d'autres sujets que celui-ci, le sujet du féminisme, effectivement, peut porter à une limitation à cause du fait que le périmètre de la famille et les enjeux de la famille ont énormément évolué. Et toutes ces questions… d'abord de l'accueil de sexualité différenciée, toutes ces questions des formes multiples que prenait la famille, des familles recomposées, des familles monoparentales, toutes ces questions même des enjeux autour de la sexualité et de la manière de vivre la sexualité sont vraiment aujourd'hui se reposent dans d'autres termes qu'en son temps. Donc, il y a un tri à faire dans sa pensée. Et il faut resituer sa pensée dans le contexte si on veut en tirer parti. Mais moi, je suis convaincue qu'on peut tirer parti de sa pensée encore aujourd'hui sur ces sujets en allant rechercher la source de ses arguments. Parce qu'au fond, c'est une femme qui a toujours défendu l'amour et la stabilité dans l'amour et le mystère de la vie qui éclot dans la famille ou qui éclot dans la parentalité. Donc, si on repensait ce qu'elle a dit, non pas dans le cadre d'une famille classique et traditionnelle qu'elle a défendue en son temps, mais dans le cadre d'une parentalité qui peut prendre différents visages, je pense qu'on aurait toujours la même richesse autour de la nécessité de penser un amour qui n'est pas seulement l'éclosion des sentiments, qui n'est pas seulement quelque chose à saisir au vol, mais qui se construit, qui s'accueille et se construit en même temps. Et la famille, elle est vraiment ça pour elle, c'est assez remarquable. C'est le lieu où un mystère se vit et où en même temps se construit une éducation, une culture, une transmission. Donc il y a à la fois, si vous voulez, il y a ce rôle de l'homme d'accueillir le don et de le retransformer pour bâtir quelque chose. Et donc, je suis sûre, personnellement, ça c'est mon avis personnel à partir de mes lectures, je ne suis pas spécialiste du féminisme, mais je crois que dans cette voie-là, il faut chercher. Car nous avons peut-être quelque chose encore à apprendre d'une pensée qui s'est vraiment focalisée vers ce mystère de la foi qui se vit dans une parole qui nous suscite et un mystère de la vie qui émerge et qui nous… Et qui, et qui se porte dans nos sociétés sous la forme d'un amour, mais qui n'est pas émotionnel uniquement, mais qui est bienveillance, qui est souci de l'autre, qui est attention à la croissance de l'autre et d'une certaine façon renonciation à soi aujourd'hui, hein, ce qui est une thématique qui est peu développée, difficile à défendre et qui pourtant dans l'amour biblique est quand même nécessaire.
Oui, je me souviens d'une phrase qui m'avait marquée en lisant un de ses livres où elle parlait. Bon, on sentait le féminisme en elle, et puis elle parlait aussi de la fatigue du couple, de la difficulté et j'avais senti à cette occasion que son féminisme n'était pas un féminisme exclusif, c'est-à-dire qu'elle incluait aussi l'autre, le conjoint, dans la difficulté des relations. Et ça, effectivement, ça la met peut-être dans une position différente d'un féminisme plus combatif tel qu'on le vit maintenant. Et ce que vous venez de dire m'a beaucoup intéressée par rapport à effectivement recentrer ou disons avoir une autre, un autre recentrage sur le féminisme, la parole, enfin le statut des femmes. Mais vous parlez donc de la parole biblique. Son enracinement, ce féminisme, elle le trouvait dans la Bible. Elle a fait des portraits de femmes. Elle a fait comment ça se posait par rapport à la Bible, par rapport à ses études de théologie.
Oui, elle a publié plusieurs livres d'exégèse, hein, de commentaires bibliques. Et en particulier, un qui a beaucoup marqué ses lecteurs, c'est « Les femmes de l'Évangile ». Alors, c'est vraiment une recherche sur le texte qu'elle fait, hein, texte à texte, et en mettant en parallèle les synoptiques, et donc les quatre, même Jean, hein, donc les quatre évangiles, disons. Elle posait, hein, une de ses convictions, c'était que les quatre évangiles formaient une polyphonie. Et que cette polyphonie, justement, à la fois dans leur différence et dans leur proximité, constituait justement une possibilité que la parole soit interpellatrice. Et donc, elle a cherché cette interpellation en montrant que les femmes dans l'Évangile, d'abord, n'étaient pas des personnes subalternes. Ça, c'était son féminisme là qui parlait, en montrant qu'on ne pouvait pas parler d'égalité, mais qu'on ne pouvait pas non plus parler d'une hiérarchie entre l'homme et la femme, parce que finalement, elle montre que la femme a été la révélatrice de la foi. Et dans son livre, en fait, elle développe par chapitre différents types de témoignages que les femmes apportent dans les évangiles. Et elle montre qu'en réalité, la femme, et elle fera à la fin de Marie, l'exemple d'une femme qui est annonciatrice du salut. Et elle va le défendre aussi. Elle aura beaucoup d'articles sur Marie. Ces articles seront rassemblés dans un livre après sa mort qui porte le titre de Marie et qui aura marqué beaucoup de lectrices et de lecteurs parce que justement, elle fait de Marie un personnage assez remarquable dans sa simplicité, dans son humilité, mais dans la fermeté de sa foi et dans sa possibilité à poser une parole, comme dans le Magnificat, où elle reçoit la bonne nouvelle et en fait elle-même don de sa vie pour l'accomplissement de cette bonne nouvelle. Donc, Marie, elle a même, à la fin de sa vie, été appelée par le groupe des Dombes, donc un groupe de théologiens de différentes confessions chrétiennes qui travaillent la question de l'œcuménisme, à faire une conférence sur Marie à l'époque où il n'y avait pas encore de femmes membres du groupe des Dombes. Et voilà, donc Marie a été dans l'exemple de la femme, l'image de la femme qui a su accueillir et annoncer l'amour et le salut, hein, en Jésus, et renoncer à elle-même, toujours cette dynamique de la renonciation, lorsque par exemple Jésus, dans les noces de Cana, appelle Marie femme, et ne l'appelle pas mère ou ne l'appelle pas maman, hein, il l'appelle femme, que me veux-tu, hein, qu'y a-t-il entre toi et moi, hein, c'est donc cette renonciation à un pouvoir de la maternité pour l'émergence d'une vie nouvelle. Ça, c'est quelque chose, une forme de transformation qui, pour elle, sera la capacité de la femme à accueillir la vie, en fait, hein, en général.
Mais sur les femmes de l'Évangile, bon, on peut dire que France Quéré a fait des émules parce que depuis, il y a beaucoup de théologiennes, notamment, il y a peut-être aussi des théologiens, mais il y a beaucoup de théologiennes qui travaillent sur les femmes de la Bible et dans les paroisses, des pasteurs qui font des recherches là-dessus, qui prêchent là-dessus. Est-ce que, selon vous, je ne sais pas, je pose peut-être une question difficile, est-ce qu'elle a été la première, en tout cas de renom à travailler là-dessus? Est-ce qu'elle a fait œuvre pionnière ce travail sur les femmes?
Alors, écoutez, le 28 novembre, lors de cette journée qu'on aura comme convention du Forum protestant, nous aurons la chance d'avoir Elisabeth Parmentier et Céline Romer, oui. qui viendront travailler cette question de la femme et le rapport à l'Évangile et à la théologie féministe. Donc, elles apporteront des lumières plus précises là-dessus. De ce que j'ai vu à ce stade dans mes lectures, c'est que elle a certainement apporté une prise de conscience parce qu'elle donnait des conférences à des publics très très larges, y compris dans des publics catholiques qui étaient à l'époque enserrés quand même dans une morale très hiérarchisée, et France Quéré n'était pas dupe du pouvoir que le clergé avait acquis sur les femmes en général, et elle savait le pourfendre avec beaucoup d'humour, et donc je pense que ses propos, sa manière de le tourner a été très bien entendue. Je ne pense pas qu'elle était la première féministe chrétienne, ça je ne crois pas. Je pense que le féminisme chrétien remonte beaucoup plus loin dans le temps. Les recherches peuvent faire remonter jusqu'à Hildegarde de Bingen, donc ça peut être pas loin. Mais enfin, elle a parlé en son temps et elle a été écoutée.
Oui, il y avait aussi un courant, parce qu'il y avait aussi Claudette Marquet, qui était une théologienne féministe de la même époque. Alors, il y a effectivement tout un contexte. Et puis, il y avait les mouvements qui n'étaient pas forcément de théologiennes, mais qui étaient sur les questions, justement, sur l'avortement, le planning familial, jeunes femmes, etc., qui étaient souvent avec des protestantes. Et on va revenir sur l'éthique. On a parlé donc rapidement du problème de la fécondation in vitro, enfin de ce qui était un problème à cette époque-là, qui n'en est plus maintenant. Je crois que c'est rentré dans les mœurs, en tout cas que ça ne pose plus de problème d'éthique, mais j'en sais rien, vous allez peut-être me contredire. Mais est-ce qu'il y a d'autres points sur lequel elle insistait ou sur lequel elle a apporté dans l'éthique? Alors l'éthique, je rappelle, peut-être on peut définir, peut-être vous le ferez mieux que moi, définir ce que c'est que l'éthique d'abord, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas trop ce mot.
Alors écoutez, au fond, elle a commencé à parler d'éthique à proprement parler. Elle a publié un livre qui s'appelle « L'éthique et la vie », où elle a formalisé la manière dont l'éthique se présentait à elle. Elle le présente comme la nécessité de penser les avancées de la science pour que l'être humain puisse se penser comme sujet et comme être libre et ne pas être objectivé par la science ou par les avancées médicales. Donc cette idée qu'il fallait discuter les limites du pouvoir de la science de façon à garder toute sa dignité à l'être humain. Et ça pose toute la question de qu'est-ce que veut dire la dignité, de comment qualifie-t-on le pouvoir de la science, qu'est-ce qu'est la déontologie médicale, qu'est-ce qu'un médecin doit pouvoir poursuivre, parce que elle travaille beaucoup ces questions. Le médecin, au départ, autrefois, dit-elle, elle cherche dans l'histoire d'où l'on vient, et elle montre que le médecin, finalement, le médecin pour elle, c'est une figure étonnante, c'est la figure de l'homme qui aimait. Il avait la compassion, ce qui pour elle est vraiment un élément fondamental du juste choix de l'action. pour soigner quelqu'un, c'est d'avoir de la compassion. Donc lui, il avait cette compassion autrefois, le médecin, mais la science était peu avancée et donc il n'avait pas le pouvoir de guérir. Donc elle fait des descriptions assez touchantes des médecins qui finalement allaient de malade en malade avec toute l'énergie possible et au fond, ils essayaient d'apporter une science, mais ils n'avaient que leur compassion à apporter. Et ils n'étaient pas en pouvoir de guérir. Mais le jour où la science a permis aux médecins d'être en pouvoir de guérir, elle a doté le médecin d'un pouvoir qui était plus important que la guérison. Alors déjà, la prédiction de la maladie, et puis finalement, la prédiction de la maladie, ben on le voit par exemple pour la détection des malformations néonatales, eh bien ça finit par amener le pouvoir de choisir quelle vie nous voulons. Est-ce que nous voulons donner naissance à tel enfant ? Et là, on tombe, vous voyez, la science permet de prendre des décisions qu'autrefois elle ne permettait pas et qui deviennent extrêmement problématiques. Et pour elle, l'éthique qu'elle aura traitée dans le cadre du Comité consultatif national d'éthique, c'est ça. C'est comment penser l'argumentation qui va donner à la science sa limite. Parce que ce n'est que par la morale que la science pourra être limitée. Son pouvoir effectif est très important.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. On va s'arrêter là. On aurait d'autres choses à dire, mais je voudrais qu'on cite un ou deux ouvrages que les auditeurs peuvent se procurer, des ouvrages assez généraux et intéressants pour le grand public. Est-ce que vous avez quelques titres à nous recommander ?
Alors, moi, j'aurais quelques titres, en particulier… Alors, on n'a pas parlé de son activité journalistique, mais c'est une dimension très vivante de son engagement. Elle était une commentatrice extraordinaire de l'actualité dans un sens chrétien et elle a eu des avis, des chroniques très célèbres dans La Croix ou dans Panorama. Et donc, vous avez un premier livre qui a été publié après sa mort et qui rassemble ces chroniques qui s'appelle Le sel et le vent. Donc ça, je conseille tout à fait cette lecture. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'écriture, il y a deux livres qui aussi ont été publiés après sa mort et qui rassemblent différents textes, qui s'appellent « Au fil de la foi, les chemins de la vie et les chemins de l'écriture ». Donc ça, ce sont des livres faciles d'accès et qui nous donnent vraiment un panorama de sa pensée assez vite, hein, une première impression, et on rentre vite dans des textes qui ont beaucoup de tenue.
Bien, je vous remercie. Alors, pour les auditeurs qui ont pu prendre les titres, vous pouvez regarder aussi sur Internet. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la radio. On vous donnera tous les renseignements supplémentaires. Alors, il me reste à vous remercier, Caroline Bauer. Et puis, merci à nos auditeurs que nous retrouverons pour une autre émission ultérieurement. Au revoir.
Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.